Trop cher, la vie, c'est le nom du festival qui s'installe au Centre culturel Bruegel toute cette semaine. Et pour cette émission spéciale sur Radio Panique, eh bien nous allons donner la parole à toutes les actrices et tous les acteurs de ce festival sur la dette du quotidien. Et nous commencerons par Rémi Ponce, auteur et metteur en scène du spectacle Apnée, qui vous sera proposé dès cet après-midi à 14h au Centre culturel Bruegel, et puis jeudi, vendredi et samedi soir à 20h30. Là, le festival est en train de s'installer, vous l'entendez. C'est depuis le Centre culturel Bruegel que nous vous proposons cette émission spéciale sur Radio Panique. Restez à l'écoute.
Électricité, téléphonie, beaucoup de téléphonie évidemment. Mais donc, les créanciers, le profil des créanciers a évolué.
C'est tout à fait contraire à l'idée du stéréotype qu'on voit où en fait on est surendetté parce qu'on flambe, parce qu'on ne consomme pas bien, mais voilà. Non, on a peut-être ça aussi, mais on a surtout des revenus insuffisants.
Être pauvre, c'est moi en fait, c'est pas vivre comme les autres peut-être. Donc à partir du moment où vous savez plus payer votre assurance voiture et que vous devez vendre la voiture, que l'argent que vous avez récupéré de la voiture en fait part directement pour payer à droite et à gauche. Donc voilà, ouais, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte ce que c'est la pauvreté quoi en fait.
Une fois que j'ai commencé à travailler, mon salaire augmentant, mon loyer augmenté, les allocations familiales ont diminué, l'avance sur pension alimentaire, j'y avais plus droit. Et donc j'ai mis très longtemps à faire ces calculs, mais quand j'ai commencé à introduire mon surendettement en mode judiciaire, ça me coûtait 700 euros par mois de travailler en fait. On s'en rend pas compte, j'avais pris un prêt pour compenser la baisse de revenus. Parce qu'en fait, quand on est chômeuse, c'est pas qu'on a de l'argent, mais on a des avantages. Les activités parascolaires des enfants, c'était moins cher. Les frais médicaux, c'était moins cher. Les abonnements scolaires à la STIP, c'est... Voilà. Eh bien, une fois qu'on travaille, c'est fini. Or, je gagnais 150 euros en plus que le chômage et je perdais tous les autres avantages. Du coup, ça devenait très, très difficile. Et c'est comme ça que je suis tombée dans le surendettement, en fait.
Une fois, mon mari, il avait seulement une facture de 50 euros. Elle est montée, cette facture de 50 euros, à 1500 euros. De 50 à 1500 euros, notre médiateur, elle est tombée par terre quand elle m'a vu la facture qu'elle m'a dit pour 50 euros. C'était l'hôpital. C'était l'électricité, le gaz, c'était le plus fort, ça m'arrive à 4000 euros.
Souvent, notre comportement au départ nous met dedans, quoi, en fait. C'est notre comportement qui nous met dedans, quoi. Parce que je dis, pour finir, on ne va plus à la boîte aux lettres, hein, donc... Et puis quand on va à la boîte aux lettres, c'est parce qu'il n'y a plus de place dedans, et puis on met tout sur la table et on laisse comme ça, quoi. Donc on n'ouvre même pas, on sait ce qu'il y a dedans. On n'a jamais... Il vient un moment donné où vous n'avez pas une lettre qui peut vous rendre heureux, quoi. Donc même quand votre pécule de vacances arrive, vous recevez une lettre de l'office des vacances comme quoi votre pécule a été saisie. Et que... Donc vous voyez, même ça, c'est... Donc voilà, c'est... Ouais. C'est dur parce qu'à partir du moment où vous êtes fiché, alors vous n'avez plus aucun avenir, quoi. Plus aucun avenir.
T'as déjà séjourné dans un hôpital ? À quelles conditions ? Chambre double, chambre simple, dortoir, couloir ? Quel accueil on t'a fait ? Tu te souviens de la couleur du papier peint dans ta chambre ? Et la couleur du papier que t'as dû signer avant d'entrer ? Tu te souviens que t'as dû signer un papier avant d'entrer ? Est-ce que tu savais précisément sous quel régime d'assurance tu étais ? Est-ce que tu savais précisément combien ça allait te coûter ? Et est-ce que finalement tu as dû payer des soins ? Est-ce que tu as été surpris en recevant ta facture ? Est-ce que tu as lu ta facture ? Est-ce que tu as lu les conditions en cas de non-paiement ? Est-ce que ça t'a surpris de voir à quel point, tout à coup, les choses semblaient urgentes et non négociables ?
Wendy, tout à l'heure, tu as dit que vous avez créé votre service au moment où les crédits à la consommation explosaient. Mais là, dans le carnet d'Albert, je ne vois pas de traces de crédit à la consommation. Comment t'expliques ça ?
Ça a changé. En 15 ans, ça a complètement changé. Au départ, c'est vrai, j'avais que du crédit à la consommation, mais depuis quelques années, il y a des dossiers où il n'y en a plus du tout. Et je ne suis pas la seule. Aujourd'hui, on estime que ça représente, allez, peut-être 30% de nos suivis. Non, maintenant, c'est beaucoup, beaucoup de charges mensuelles. En fait, la plupart des personnes qui se retrouvent chez nous n'ont pas de quoi vivre, tout simplement. Pas de quoi se loger, pas de quoi se chauffer, pas de quoi téléphoner. Et ça, c'est violent. Parce que derrière, il y a le sentiment qu'il n'y a qu'à bien gérer, qu'il n'y a qu'à se priver. Alors, se priver de GSM, se priver de loisirs, se priver de soins de santé, on peut aller jusque-là ? Allez, ok, d'accord, c'est ça, c'est le principe de réalité. Et ça, c'est terrible. Ça fait maintenant une dizaine d'années que c'est quasi systématique. Il y a presque toujours une dette liée à des soins de santé.
De là où on est, un hôpital, enfin malheureusement, je veux dire, c'est d'abord et avant tout des gens qui manipulent des chiffres, avec la froideur administrative que ça suppose. Le premier courrier, apparemment très neutre, avec ses menaces à peine voilées au verso, du genre « Tout retard de paiement entraînera de plein droit et sans mise en demeure un intérêt de retard auto-légal. De plus, le principal sera majoré de plein droit d'un montant de 5 euros lors du premier appel et de 12 euros lors du second appel. » Voilà. Bon, ben ce premier courrier a beaucoup d'importance. On le décortique. On essaye de voir s'il y a du vice. Si c'est conforme, par exemple, de générer des frais de relance, des intérêts. C'est un peu technique. Mais c'est souvent autour de ces aspects qu'on entre en relation avec eux.
Et voilà pour une lecture d'un extrait d'Apnée, lecture par Marie-Ferdinand Florel, trois comédiens et comédiennes, que vous pourrez voir sur scène eh bien, dès aujourd'hui, à 14h, au Centre culturel Bruegel pour le spectacle Apnée. Et puis jeudi soir, vendredi soir et samedi soir, Rémi est avec nous. Rémi, bonjour.
Bonjour.
Rémi Ponce, l'auteur et le metteur en scène du spectacle.
Ouais.
Comment ça va ?
Ça va.
Parce que c'est pas seulement la mise en scène d'un spectacle, c'est aussi l'organisation de tout un festival. C'est beaucoup ?
Oui. Oh ben, oui, c'est beaucoup. Oui. On va pas dire, je vais pas dire l'inverse.
Alors, Apnée.
Mais j'étais pas tout seul. Hein,
ben non, bien sûr, le Centre culturel Bruegel. On va donner la parole à différentes associations, même et différents artistes qui participent à toute cette semaine un peu plus tard dans l'émission. Rémi, déjà peut-être commencer par nous raconter ce que raconte Apnée, nous dire ce que raconte Apnée. C'est l'histoire de qui ?
Apnée, c'est l'histoire d'une personne, un homme qui s'appelle Albert de Steen, que j'ai inventé hein, sur base de récits que j'ai pu récolter ici et là. Et c'est le récit de c'est son histoire, on va dire, de sa première dette jusqu'à son dernier remboursement. Donc c'est 17 ans de sa vie qui s'étalent pendant une heure et demie de spectacle, qui sont, disons qu'il y a d'autres paroles qui viennent prolonger, son histoire est prolongée par des paroles d'autres personnages qui viennent raconter aussi, elles et eux, comment elles vivent la dette.
Comment on se lance dans l'écriture d'un spectacle comme celui-là sur un sujet quelque part aussi intime que la dette ? C'est quelque chose dont il est compliqué de parler. Et toi, tu as voulu d'abord donner la parole à plein de gens que tu as rencontrés dans ton travail. Comment tu as procédé ? Est-ce que c'est d'abord du documentaire ? Est-ce que c'est des lectures ? Comment tu as fait ?
Oui, alors ce qui se passe, c'est que ça fait une dizaine d'années que moi je fais une chronique du travail, que je mène un travail de chronique du travail social. Donc je rencontre des travailleurs et des travailleuses sociales et sociaux depuis un certain nombre d'années. Et je les accompagne en partie dans leur travail. Et du coup, c'est à la faveur d'une de ces rencontres, d'un de ces accompagnements que j'ai rencontré la dette. Et du coup, il y a quelque chose qui m'a sauté au visage, on va dire, ou en tout cas à l'intérieur, aux tripes, c'est la violence que ça peut générer. Et de cette violence, bon, c'était il y a quelques années, c'était au moment où la Grèce subissait par ailleurs tout un tas de violences structurelles liées à sa dette. Et du coup, j'y voyais un sujet éminemment théâtral, au sens de mettre les sujets sociaux et politiques au cœur.
Alors, le téléphone de Rémi sonne.
Ouais, bah ça, c'est voilà.
C'est le début du festival. Et donc, un sujet politique.
C'est ça. Et voilà. Et du coup, ce qui m'intéressait, c'était ça, effectivement. C'était comment, par le théâtre, trouver l'endroit de l'intimité, l'endroit de l'intime, et le relier à un sujet politique.
Et comment deux choses très concrètes ? Parce que j'ai l'impression, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression que la dette, c'est quelque chose d'hyper concret pour les gens qui la subissent. Alors là, tu parles de la dette de la Grèce, d'un pays, mais on peut parler aussi, donc, on parle surtout de la dette des personnes en situation de surendettement. C'est des chiffres tous les jours, c'est des calculs, donc c'est extrêmement concret. Comment est-ce que vous avez travaillé, peut-être, et là c'est la parole aussi aux comédiens, comment est-ce que vous avez travaillé pour rendre cet aspect des choses théâtrales, finalement ? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu des pistes de travail ? Comment vous l'avez abordé, vous, en tant que peut-être comédien, comédienne ? Allez, Ferdinand, je sens que tu as des trucs à dire.
Comment on l'a abordé au plateau ? Comme Rémi le disait, après, je crois qu'il y a un gros travail de documentaire qu'on a fait. Donc, c'est aussi se réapproprier la parole des paroles du réel que, évidemment, Rémi fictionnalise un tout petit peu parce qu'on combine des témoignages ensemble. Mais du coup, on avait une matière... une parole qui est vraiment inscrite dans le concret que nous, en tant qu'acteurs et actrices, on se réapproprie. Et après, on a fait aussi du travail de documentation, d'arpentage. Donc, on s'est vraiment... on a baigné dans cette matière. Et avec tous ces aspects parfois un peu théoriques, on a réfléchi à comment transcrire ça au plateau pour rendre ça... traduire ça par du sensible et par du théâtre. Donc, on est passé par des phases d'improvisation, des phases de tentative de métaphoriser aussi qu'est-ce que c'est le fait de se retrouver acculé par des courriers qui arrivent tous les jours. Ça peut se raconter sur le plateau à l'aide d'un récit oral, mais après il y a aussi la possibilité de créer de l'image théâtrale, de voir qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut traduire en sensation le fait d'être complètement acculé par des courriers, complètement mis sous tutelle. Enfin, qu'est-ce que c'est cette violence aussi, cette infantilisation. Tout ça peut se traduire par des actes théâtraux, on va dire, en tout cas par de la métaphore théâtrale qui nous a permis de traduire, théâtralement ces questions qui sont à la fois concrètes et à la fois très abstraites, parce que c'est quelque chose qui peut rester très abstrait quand c'est loin de nous. On ne se rend pas compte de la violence de recevoir tous les jours des rappels. Donc on a essayé de traduire ça à la fois dans les corps et à la fois dans l'espace. Et on a aussi mené avec... Tristan, qui a dessiné, donc il y a une partie dessinée dans le spectacle. On a aussi essayé de traduire ça par du dessin, par de l'image, donc qui sont projetées dans le spectacle et qui amènent aussi une dimension visuelle et poétique, je dirais, sur comment est-ce que une personne peut se mettre à couler au fur et à mesure du temps.
Marie ou Florelle, comment vous l'avez abordé ce spectacle en tant que comédienne ?
Effectivement, avec toute la matière documentaire qui a été apportée, c'était vraiment un puits de ressources pour nous. Et même à différents moments de la création, de réentendre à chaque fois ces interviews que Rémi avait collectées, donc des interviews à la fois de médiateurs de dette, d'assistants sociaux, de personnes qui ont vécu ça, ces situations de surendettement, de les entendre, de les réentendre, ça renourrit vraiment le fond du propos. Et puis après, vu qu'on a eu aussi tout un parcours avec des lectures du texte, on a fait plusieurs lectures publiques, et il y a eu beaucoup de personnes du secteur social qui sont venues, et leur retour et leur réception de ça, ça a été vraiment quelque chose de fort aussi dans le cheminement, pour voir, constater l'écho que ça pouvait avoir chez eux, qu'il y avait aussi une reconnaissance du travail qu'ils faisaient, de l'endroit hyper ambivalent dans lequel ils sont par rapport aux personnes qui soutiennent et qui les accompagnent, parce qu'à la fois ils sont là dans ce geste social et en même temps complètement les instruments d'un appareil étatique, et ils sont conscients de cette ambivalence, quoi.
Vous avez découvert des aspects de la question autour du surendettement. C'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, c'est pas forcément quelque chose qui est fort médiatisé, mais est-ce que c'est un univers, est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert, et comment ça a travaillé chez vous, s'il y a eu découverte?
Oui, moi j'ai découvert vraiment les clichés qu'on peut avoir sur quelqu'un qui est surendetté, c'est quelqu'un qui gère pas. Ou c'est quelqu'un qui est pauvre, qui a pas des beaux habits, ou enfin ce genre de débilité qui est véhiculé. Et en fait, de se rendre compte que c'est hyper ancré dans chacun de nous, en fait, cet endroit-là de phrases idiotes inscrites en nous, quoi.
Est-ce que le spectacle Rémi a une volonté justement de casser ces clichés? Est-ce qu'il y a une volonté de sensibiliser sur comment les personnes touchées par les situations de surendettement sont parfois stigmatisées?
Oui, alors il y a plusieurs couches dans le spectacle. Une, effectivement, c'est de faire ce travail d'aller à l'encontre des clichés. Il y a des repères dans le spectacle qui permettent assez objectifs, qui permettent de les défaire, des phrases clés, quoi, un peu comme ce que disait un des extraits que Marie a lu tout à l'heure, qui nous donne des repères, qui permettent d'aller à l'encontre de ce qu'on peut se représenter sur les clichés. Mais il y a plusieurs couches, puisqu'il s'agit aussi, une fois que les clichés sont défaits, il s'agit de se demander qu'est-ce qu'on produit, comment on produit ça, comment ça se produit, et qu'est-ce que ça produit chez ces personnes, effectivement intimement, mais politiquement aussi, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment ça empêche, comment ça empêche de faire, comment ça empêche de vivre, et jusque-là, enfin, en essayant d'ouvrir le maximum, en se demandant, et maintenant, comment collectivement on prend ce sujet à bras le corps, et qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà.
Aussi, il y a un personnage dans tout, quand on aborde la question du surendettement, et alors c'est peut-être un personnage aussi du spectacle, enfin, c'est le médiateur ou la médiatrice de dette. Est-ce que tu questionnes la relation entre la personne en situation de surendettement et la personne qui va être là, qui va être chargée de gérer la dette de cette personne?
Oui, en tout cas, c'est, comme je disais tout à l'heure, comme dans mon travail de chronique du travail social, c'est un des pivots de mon travail d'écriture, c'est de mettre en scène. C'est de mettre en scène de mettre en scène le travail social et du coup le travailleur et la travailleuse sociale dans toutes ces ambivalences et dans toutes ces ambivalences que disait Marie tout à l'heure. Là il y a la rencontre, il y a une grosse partie du spectacle qui s'articule autour de la rencontre d'Albert avec sa médiatrice de dette, c'est Wendy Leroux, qui est interprétée par Marie, et qui du coup donne son point de vue. Alors c'est toujours compliqué, c'est-à-dire que l'idée c'est de mettre en scène quand même une relation, donc on pourrait la caricaturer, mais souvent du coup je choisis de pas trop le caricaturer les choses, et du coup la médiatrice que je mets en scène, c'est pas une médiatrice idéale, elle a ses travers et ses défauts, mais en tout cas elle a quelque chose de moins normatif, on va dire, que ce qui pourrait avoir lieu dans certains services. Voilà. Après, elle est quand même, la relation, elle aboutit à du conflit. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est-à-dire qu'il y a des conflits de représentation, des conflits parce que, malgré tout, ce à quoi est occupé Wendy pendant son travail d'accompagnement, c'est un travail violent. Ça génère de la violence. Et quoi qu'elle puisse faire, ça restera violent. Et du coup, à un moment donné, et ça c'est la possibilité du théâtre de faire ressurgir cette violence, ça surgit à un moment donné dans la pièce. Et voilà, ça m'intéresse en tout cas que cette violence elle surgisse.
Alors peut-être que je me méprends, mais là, ce qui est intéressant aussi dans cette relation, c'est que c'est une relation qui est quelque part choisie. Enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme choisi, mais on n'est pas obligé d'avoir un médiateur de dette.
Oui, c'est ça.
Donc la personne en position de surendettement va aller vers quelqu'un. Donc il y a ce côté ambivalent entre je t'ai choisi, enfin je suis allé vers toi, et en même temps, c'est très vite, tu es censé m'aider, mais ça devient hyper violent parce que ça touche à mon intimité aussi.
Oui, mais c'est là où la relation, bon, d'autres le diront mieux que moi tout à l'heure, hein, mais c'est là où la relation du médiateur ou la médiatrice de dette avec la personne surendettée, elle est peut-être moins problématique qu'un travailleur social dans un service général au CPS qui est chargé, par exemple, qui a en charge un dossier de revenus d'intégration sociale, de RIS, où là, il y a des missions de contrôle qui peuvent être beaucoup plus violentes, beaucoup plus dures. Et là, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation contractuelle, il y a un contrat tacite, mais qui n'est pas effectif, c'est-à-dire que si la personne, à un moment donné, veut quitter cette relation, elle peut le faire. Dans un contrat, dans une médiation à l'amiable, hein, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la médiation s'organise autour d'un acte judiciaire, notamment autour du règlement collectif de dette, c'est un peu technique, mais là, la relation est beaucoup plus problématique. Et là, on en parle aussi dans la pièce, de ce que ça génère. Voilà.
Peut-être je vais vous laisser lire un deuxième extrait. On fait ça.
En fait, pauvre, c'est un truc que t'apprends. Tu ne nais pas pauvre. Tu peux naître avec peu d'argent, oui, mais tu ne nais pas pauvre. On ne croit pas comme ça parce que, tu vois, il y a tous les films, tout le rapport romantique, quoi, Germinal et Misérable. Mais c'est pas ça, être pauvre. Pauvre, c'est un visage, c'est un regard, c'est le regard des autres sur toi. Tu vois, par exemple, là, j'ai pas l'air d'être pauvre. Ça, tu vois, c'est 2 euros au petit rien. Ça, les chaussures, je les ai achetées sur le Bon Coin, 10 euros. Ça, on me l'a donné. Ça, c'est Zeman, ma culotte aussi, tu vois, c'est 2 euros. Et elle est pas belle, ma chemise ? Être pauvre. Être pauvre. Regarde comme j'arrive à le dire. Et pourtant, à l'intérieur, je sens que ça me... Oui, oui, je suis marquée, oui.
C'est la décadence. La décadence. Quand tu te retrouves avec une facture de 50 euros que tu sais pas payer, ça monte directement à 200, 300 euros, avec les frais de relance, d'huissier. C'est un engrenage. Un engrenage et tu peux pas t'en sortir, c'est comme ça. Alors d'abord, tu paniques, tu te prives de tout pour pouvoir payer, et puis après, t'as carrément peur d'aller à la boîte aux lettres. Donc t'y vas plus. Ou alors si t'y vas, c'est parce qu'il y a plus de place dedans. Et on met tout sous la table, et puis on laisse comme ça, quoi. On n'ouvre même pas. On sait ce qu'il y a dedans, hein. On va quand même pas me mettre en prison pour ça. Alors tu t'en fous. Voilà. Et c'est dur. C'est dur parce qu'à partir du moment où tu rentres dans cette spirale, t'as plus d'avenir. T'as plus aucun avenir.
Comment ça se fait qu'on déshabille des gens à ce point ? Comment ça se fait qu'on aille si loin dans la voracité pécuniaire que des gens en viennent à se désintéresser d'eux-mêmes, à la poubelle ? Et puis c'est qui ce « on » qui nous déshabille ? C'est qui ce « on » qui s'insinue à ce point dans la chair des gens qu'on reçoit ? Qui pousse encore, qui appuie, qui presse, qui comprime. Où est-ce qu'il se loge, hein, ce « on » qui nous lamine ? Aujourd'hui, on est débordés. Il y a une file d'attente d'un mois avant d'avoir un premier rendez-vous. Comment ça se fait qu'on s'est installé dans le paysage à ce point, qu'on est devenu si indispensable ?
Vous écoutez Radio Panique ? Nous sommes en direct du Centre culturel Bruegel et vous venez d'entendre un extrait du spectacle Apnée. Et juste après Eddie Mitchell, un choix musical de Rémi Ponce, le metteur en scène du spectacle, s'il vous plaît. On parlera du festival Trop cher la vie.
J'ai un nouveau téléviseur avec les 3 chaînes en couleur relié au réfrigérateur qui peut aussi me donner l'heure. Ma vie se résume en ces mots. Sont prélevés sur mon compte bancaire si léger. Il reste alors dans mon chéquier des chèques en bois de peuplier qui sont dépensés aussitôt en crédit et en stéréo. We'll be right back.
de l'argent de côté. Sur la vie je me suis assuré, mais mes quittances sont impayées. Tant pis, je vais mourir idiot, à crédit mais en stéréo.
Dette, la plupart du temps, les personnes, elles pleurent toutes les larmes de leur corps. Et quand il y a une relation de confiance qui s'établit, elles en parlent de ça. Et c'est la honte parce qu'on n'ose pas le dire à la famille. C'est la honte par rapport aux enfants à qui on ne peut pas offrir. Ben justement, ces injonctions, on ne peut pas leur offrir ce que les autres ont. On ne peut pas leur offrir le GSM qu'on estime... auxquels ils ont droit et on n'a pas le choix parce que dans une famille riche où c'est un choix de faire de la décroissance etc, c'est tout à fait autre chose, c'est pas vécu comme ça, c'est vécu comme voilà, je suis pas un bon parent, je sais pas offrir ça à mes enfants, j'ai pas bien géré.
On a signé le bail le mois de mars, mais on n'est pas habité direct. Le mois de septembre, vraiment, je suis venue ici. Et à partir du 15 septembre, ça commençait à voir le loyer s'édifier là. Le loyer, on le payait parce que le loyer dans le temps, c'était 215 euros. Et je l'ai dit à Mustapha, écoute, de l'autre côté, on ne paye pas le loyer, mais de ce côté-là, on doit le payer. Et c'était chaque mois, c'est moi qui payais le loyer, 215 euros. C'était pas vraiment un problème, mais le problème c'était les huissiers qui se défilent, c'est ça ce qui m'a fait peur. En plus que quand l'huissier il est là, il rentre, il commence, même si j'avais rien ici, parce que j'ai perdu tout, avec l'autre côté de la maison il y avait de la pluie qui tombait, avec le problème que son fils il a pas fait beau de des travaux, tout le plafond qui est tombé sur chez moi, avec de l'eau, avec tout, et là tous mes affaires sont parties. J'avais rien ici aussi. Je dormais par terre ici avec mes enfants aussi.
Pour les amitiés, après, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas l'argent et on ne peut pas toujours aller chez les gens sans rien. Et donc, j'ai annulé beaucoup de choses. Et c'est très compliqué. Je n'ai jamais parlé de ça à personne. Parce que les gens ne peuvent pas comprendre ce que c'est, même s'ils voient de loin. Et puis, on a tellement honte de ça. On a tellement honte de ce qui se passe, qu'on nous dit que c'est notre faute, qu'on est désassistés, tout le discours ambiant, tout... Enfin...
C'est très hypocrite, en fait, le système dans lequel on est, vraiment. Parce qu'en même temps, on est dans une société de consommation où on te pousse à consommer, parce que c'est consommer, c'est faire tourner l'économie, et c'est notre devoir à tous de faire tourner l'économie pour que la croissance soit là, pour que l'emploi soit là, enfin voilà, c'est le discours ambiant. Et en même temps, quand quelqu'un consomme et ne sait pas payer, ben, on le montre du doigt. C'est un paria, c'est pas bien, t'as rien compris. Tu dois consommer autrement, tu dois te limiter à ce que t'as réellement besoin. Donc c'est très violent, en fait. Donc la publicité, la société de consommation, elle est pas pour tout le monde, en fait. Et de quel droit est-ce qu'on pourrait décider, toi t'as le droit de consommer et toi pas.
Le festival Trop cher la vie s'installe au Centre culturel Bruegel, d'où nous vous proposons cette émission en direct sur Radio Panique. Vous venez d'entendre des extraits d'interviews réalisés par Rémi Pons qui ont servi à alimenter la réflexion autour de son spectacle Apnée, qui sera proposé cet après-midi à 14h au Centre culturel et puis jeudi, vendredi et samedi soir à 20h30. Mais le festival, c'est bien d'autres choses. C'est la présence d'associations qui militent, qui travaillent autour du surendettement. Et c'est le cas du Centre d'appui Bonjour Simon.
Bonjour.
Ça va ?
Ça va bien, et vous ?
Mais ouais. Alors, qu'est-ce que vous allez faire dans le cadre de ce festival, vos centres d'appui ?
Alors, on va faire plusieurs choses. Tout d'abord, on a installé un stand d'information sur lequel on peut fournir une série d'informations aux gens, aussi bien aux particuliers qu'aux professionnels. On présentera aussi certains outils de prévention qui sont utilisés dans le cadre des animations envers tous les différents publics. On a installé, on a aussi développé dans le cadre de nos activités 3 vidéos d'information sur donc le surendettement, la médiation judiciaire, la médiation amiable et la ligne du temps de la dette qui seront disponibles en permanence sur des télés dans le hall que les gens pourront écouter. Alors qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On a amené différentes affiches d'un atelier de prévention qui a été fait dans le cadre, avec des étudiants de l'EPFC qui sont affichés aussi. Et une collection de cadres qui avait sur le thème du surendettement qui avait été réalisé. Et alors, pas oublier, on participera aussi à plusieurs spectacles.
On entendait dans le son qu'on vient d'entendre la honte qui habite quelque part les personnes qui sont victimes de surendettement. Vous, comment vous travaillez ? Est-ce que vous recevez ces personnes ? Vous avez mis en place plein d'outils de prévention, mais est-ce que vous les recevez chez vous ? Comment ça se passe ? Comment vous travaillez ça ?
Nous, on a plusieurs aspects. On a un aspect prévention qui va effectivement vers ces publics les rencontrer, mais c'est d'habitude pour essayer de les prévenir avant que le problème n'arrive et que la honte arrive. Et puis alors après, il y a tout le système mis en place des services de médiation de dette. Nous n'en sommes pas, nous on les forme, on les conseille juridiquement et on les soutient. Mais c'est vers ces publics-là, vers ces services-là qui sont soit dans les EPS, soit dans certaines ASBL à Bruxelles, que les gens doivent se diriger. Évidemment, c'est effectivement quelque chose qu'on remarque, qu'il y a beaucoup de difficultés à pousser la porte du CPS ou du service de médiation de dette. Les gens n'y vont pas tout de suite, ils vont souvent trop tard, ils attendent vraiment d'être débordés, de plus savoir quoi faire pour oser pousser cette porte quand ils n'ont plus d'autres alternatives.
Alors à côté de vous, il y a Denise. Bonjour Denise.
Bonjour.
Attends, je vais allumer ton micro. Ça va Denise ?
Oui, ça va très bien, bonjour. Alors moi je travaille au centre d'appui, mais c'est pas de ça que je viens vous parler ce matin. Je représente ici, moi, la compagnie Tultetard. Alors c'est quoi la compagnie Tultetard ? C'est 2 comédiens, un qui a une formation de comédien et un qui est médiateur de dette et qui travaille dans un des services de médiation de dette de la région de Bruxelles. Et donc, pendant la semaine, ils vont proposer 2 spectacles. Alors, un premier spectacle qu'ils ont imaginé, inventé, conçu, déjà présenté, qui s'appelle « L'heure de la prescription ». C'est la rencontre pas si improbable que ça d'un huissier de justice, Maître tape comme tout apprendre, et d'un surendetté, monsieur Cite. Surendetté, insolvable, débiteur. Et donc, il va se passer plein de choses durant cette rencontre. Alors, vous allez me dire, waouh, c'est un sujet assez lourd, assez dur à aborder. Faites-moi confiance, venez les voir, parce que vous verrez qu'on peut parler avec légèreté, avec sourire, d'un sujet aussi sérieux. Donc, ce spectacle sera joué le jeudi à 14h et le samedi à 14h, ici, au Centre culturel.
Comment ?
Et alors, le deuxième spectacle...
Il y a 2 spectacles, oui.
Oui, un deuxième spectacle est en fait une création en cours. Et donc, ceux qui auront la chance de participer aux ateliers du jeudi matin le verront en primauté, en avant-première, etc. Donc c'est un tout autre registre de spectacle, puisque c'est du théâtre-objet. C'est quoi le théâtre-objet ? C'est faire parler des objets. Et nous allons aller à la découverte d'une femme qui vit avec ses 2 enfants et qui rencontre mille et une difficultés dans sa vie quotidienne. Donc ça, c'est jeudi matin pour ceux qui participeront aux ateliers du jeudi matin.
Bonjour Martine.
Oui, bonjour. Moi, donc, je représente Trapèze.
Alors, Trapèze, bon. Ça veut dire quoi, déjà ? C'est compliqué. Hein. Moi aussi, à chaque fois que je dis Trapèze, c'est un truc à rallonge. Bon, en gros, qu'est-ce que vous faites à Trapèze ?
Donc, ce qu'on fait à Trapèze, donc, on associe donc, des acteurs professionnels du social et des personnes qui ont vécu donc, le surendettement. Et donc, on a compris qu'il fallait, enfin, que ça serait bien d'associer les deux, donc le social plus les témoins du vécu, parce que donc on est quand même une base dans le sens que, voilà, c'est un sujet qu'on connaît très bien,
et
qu'on
pouvez,
maîtrise.
Vous pouvez partager vos trucs et astuces.
Et voilà. Et donc, c'est, ce que nous, on peut faire, donc, c'est sensibiliser la société pour faire comprendre ce que c'est le surendettement et que ce n'est pas une fatalité. Enfin, et que c'est un accompagnement donc, des personnes, donc parler de l'argent, parce que c'est quand même vraiment un sujet tabou. Mmh. Et donc, parler des dettes. Et donc, quelque part, donc, c'est briser le tabou, quoi. Et donc, c'est associer les deux.
Et là, vous avez créé, je pense, un petit espace. Et donc, il y aura un espace où
oui,
on pourra venir...
Oui, il y aura
venir,
un espace, donc, notre, donc, ce sera sur les préjugés.
C'est ça.
Donc, la honte, si elle a, donc, comme vous voyez, donc, ils n'ont qu'à travailler. Enfin, bon, c'est de notre faute, quoi.
Ouais.
Si on a des problèmes de...
Mais comment il arrive le surendettement ?
Ben c'est ça arrive petit peu à petit peu. Donc vous faites un crédit, puis après vous avez des problèmes de santé, vous savez plus payer ce crédit et de fil en aiguille on s'enfonce. Le malheur c'est qu'on refait un deuxième crédit pour payer le premier crédit. Et ça devient infernal et à un tel point que donc on doit faire appel à un médiateur de dette. Et donc et à ce moment-là, donc le problème c'est que on nous retire une certaine somme. Mmh. Mais donc le problème c'est que la santé ne nous permet plus de travailler. Donc c'est que on perd encore de l'argent en plus. Et c'est infernal quoi. Et
on rentre dans un engrenage.
Dans un engrenage et on n'arrive absolument plus à en sortir. Quoi. C'est...
Mais peut-être Denise ou Simon. Alors il y a Nat aussi qui me. Ah voilà, Nat, toi tu peux. Bah, viens à mon micro, Nat, parce que Nat, tu fais partie de Trapèze aussi et tu viens de me donner le flyer, c'est avec tout ce que ça veut dire Trapèze. Vas-y.
Voilà, je voulais dire que en fait, donc Trapèze, c'est les initiales de tous en réseau autour de la prévention et de l'expérience du surendettement. On est une ASBL et une jeune ASBL pilote, comme l'a dit Martine. Et donc, voilà, on a un stand ici dans le cadre de la semaine de la dette. Également, il y a le groupe de soutien qui est très important chez nous parce qu'on accueille avec beaucoup de bienveillance les gens en difficulté. Et voilà. Donc, on a une pièce, Basta Précarité, qu'on va jouer également durant la semaine deux fois.
Merci Nat. C'est toujours très clair quand tu prends la parole, Nat. Dans les réunions de préparation aussi. Alors un mot pour une question pour Simon et Denise. Là on vient d'entendre Martine avec des exemples très concrets de voilà, on fait un crédit, puis on a un petit accident de la vie, on fait un deuxième, on n'arrive pas à payer l'hôpital. Comment on fait quand par exemple on a beaucoup de frais d'hôpitaux, qu'on ne sait pas les payer ? Sans faire de crédit. Enfin, je veux dire, la question peut paraître très bête et très concrète, mais si on n'emprunte pas de l'argent, comment on fait ? Comment on fait sans se surendetter ?
Moi, j'ai envie de vous parler du plan de paiement.
D'accord.
Et donc, mais attention, pas n'importe quoi comme plan de paiement. C'est être au clair dans sa tête avec son budget et essayer de prendre un plan de paiement, aussi petit soit-il, pour payer petit à petit le montant de sa facture. Alors, ne pas voir trop large et ne pas voir trop gourmand, parce que, dans le principe, un plan de paiement, il vaut mieux le respecter. Sinon, le professionnel, qu'il soit huissier ou pas huissier, il va se braquer. Et il va se dire, cette personne-là, elle ne fait vraiment aucun effort. Donc, moi, c'est d'emblée ce que j'ai envie de dire. Et ce n'est pas toujours possible. Et donc, il ne faut pas oublier qu'à Bruxelles, notamment, il y a pas mal de services d'aide qui peuvent nous aider, prendre un plan de paiement, bien sûr, mais qui peuvent nous aider financièrement dans la prise en charge en totalité ou en partie de nos factures.
Simon ?
Oui, ben effectivement, le plan de paiement, c'est le premier réflexe à avoir. Si vous ne savez pas payer, il ne faut pas faire l'autruche. Il faut directement y aller. Maintenant, certains créanciers sont très durs à la négociation. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller voir dès le début un service de médiation de dette qui lui connaît vos droits, qui lui, enfin, sait comment les défendre et sait comment prendre le créancier dans le sens du poil, on va dire ça comme ça. Et par contre, si vous y prenez très tard et si l'endettement... parce que quand quelqu'un arrive dans un service avec 50 000 euros de dette, ben c'est pas avec des petits points de paiement sur son faible revenu qu'on va pouvoir y arriver. Donc c'est, là, il y a d'autres solutions qui existent comme le règlement collectif de dette, mais c'est vraiment une procédure très lourde qui est là pour les cas extrêmes.
Mais est-ce que le problème, il n'est pas dans le, quelque part dans le nom du festival ? Est-ce que la vie n'est pas devenue trop chère, en fait ? Parce que là, on parle de comment rembourser une dette, éventuellement un accident de la vie, des frais... des frais médicaux, mais est-ce que... Alors là, peut-être Rémi aussi, tu peux intervenir. Hein. Quelle est ta réflexion, toi, par rapport à ça, sur le fait que la vie est devenue trop chère, non ?
Alors, oui, c'est un point de vue, c'est un point de départ, en tout cas, de se dire la vie est trop chère. Mais après, moi, ce qui nous intéressait dans ce titre, c'est à quels endroits c'est trop cher ? Donc, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est devenu trop cher à des endroits de vie courante, pour se soigner, pour manger, pour se chauffer, etc., etc. Alors, on a notamment aujourd'hui, on parle beaucoup de ça, de l'inflation, de l'explosion des prix, etc. Mais je pense que le problème, il est plus profond que ça. Il est la manière dont les créanciers, et c'est ce que disent Denis et Simon en filigrane, c'est la manière dont ils se comportent. Mmh. C'est-à-dire que, grosso modo, elle est devenue trop chère, mais les créanciers publics, on va dire des services publics, se comportent comme des créanciers privés. Et du coup, ça devient invivable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un hôpital se comporte comme une banque, Ça pose problème et ça pose question. Et il se comporte comme une banque, pas pour n'importe quoi. C'est qu'il y a un vrai système, il y a une privatisation du système de santé, il y a une privatisation de tous les services publics aujourd'hui. Et du coup, ça pose problème. Ça pose sérieusement problème.
Et c'est pour ça qu'on reçoit, au bout d'un certain temps, un courrier hyper inquiétant avec un en-tête et des huissiers qui vont bientôt venir sonner à votre porte après avoir 3-4 fois été augmentés. C'est un peu ça le parcours. Moi, je me suis toujours demandé comment est-ce qu'on peut avoir les huissiers, comment est-ce qu'on peut les arnaquer quand ils viennent à votre porte. Il n'y a pas un truc. Moi, je sais que j'ai aidé quelqu'un, j'ai caché une bagnole une fois parce que les huissiers voulaient la prendre. Est-ce qu'on peut faire ça ?
Joker,
on peut pas dire les trucs et astuces pour avoir les huissiers ?
Le truc, c'est pas d'avoir... Enfin, l'huissier, il sera toujours là. Il faut savoir que même s'il arrive à prendre vos meubles et que la vente est déficitaire, c'est pas pour ça qu'il doit arrêter son dossier. Ouais. Il arrête quand... Enfin, lui est censé regarder si la personne ne sait plus rien payer. Il serait censé s'arrêter à un moment. Bon, tout le monde ne le fait pas. Et là, parfois, l'engrenage, il reste, il poursuit et des choses comme ça. Le but est de trouver un arrangement avec lui, comme n'importe quel créancier.
La solvabilité est quelque chose qui est très rarement prononcé par les huissiers parce qu'il y a toujours dans leur tête quelque part l'idée de est-ce que la situation de la personne ne va pas s'améliorer et est-ce qu'on ne va pas pouvoir à un moment donné récupérer. Donc ça aussi c'est tout un débat, hein, la notion d'insolvabilité. Et ça veut dire que si une personne est déclarée insolvable et que... Sauf si je me trompe, Simon, mais dans ce cas-là, le dossier, il est mis au frigo pour une longue durée. Et visiblement, ça n'intéresse pas certains huissiers, en tout cas.
Il n'y a pas vraiment de statut d'insolvabilité en Belgique. On ne peut pas avoir une carte disant les huissiers ne peuvent plus venir. Et donc, ils gardent une certaine menace, un bâton derrière la porte, pour dire on peut toujours être là et... Quoi que vous gagnez, si vous ressortez de la mare dans laquelle vous êtes noyé, il faudra compter avec nous. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à aller voir des gens qui savent, le service de médiation de dette ou le règlement collectif de dette, qui permettent de dire aux huissiers de ne pas attendre au-dessus de la mare, histoire d'essayer de faire ressortir la personne de l'eau.
Mais il y a un côté, je trouve qu'il y a de l'intimidation quand même dans ces courriers qu'on reçoit, non, Martine ?
Mais bon, oui. Dans le sens que on a peur de payer les intérêts, tous ces trucs-là, mais une fois qu'on fait la démarche de faire ça donc officiellement, et si on n'est pas solvable, quelque part, c'est entre parenthèses, ça a été mon cas, pendant cinq ans, si ma condition change, il peut revenir. Mais comme j'ai eu des problèmes de santé, ça n'a pas été le cas. Et donc, ma dette a été effacée en 2017. Mais seulement le problème, à tout moment, je risque de nouveau d'avoir des problèmes. Parce que donc, j'ai fait des crises cardiaques. J'ai été opérée, tout. Et donc, je fais des crises cardiaques, même si c'est une somme moindre que quelqu'un d'autre, parce que je suis donc VIPO, mais c'est des 300 euros. Donc, comme actuellement, je paye des 25 euros par mois. Mais j'en ai pour un an. Mais d'ici là, je risque de nouveau de faire une crise cardiaque. Donc, c'est une chaîne sans fin, quoi. Donc, à tout moment, tu risques de te retrouver avec huissier et tout. Donc, c'est plutôt ça qu'il faudrait essayer de trouver une solution. C'est pour que, justement, des gens dans notre situation, qu'on ne sait pas faire autrement, et qu'on puisse nous aider. On nous aide, hein, c'est pas ça, mais c'est pas assez. Et donc, c'est l'angoisse tout le temps. Je dis, tiens, j'ai intérêt à être en bonne santé, au moins pendant un an ou deux.
Voilà. C'est tout ce qu'on te souhaite.
Enfin, bon.
Martine,
voilà.
Je vais te demander de passer le micro à Eliana qui est à côté de toi.
À qui ?
Eliana, oui. C'est à ta droite. Ça va, Eliana ?
Oui, ça va. Merci.
Alors, Eliana, tu... Peut-être avant de parler de ce que toi tu vas proposer dans le cadre du festival Trop cher la vie, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre, ce que Martine quelque part dénonce. Est-ce que c'est quelque chose qui toi en tant qu'artiste t'inspire? En tout cas, tu t'en es emparé pour ce festival de cette question du coût de la vie, des accidents de la vie, du poids de certaines choses qu'on peut subir au quotidien.
Oui, on sait parce que je fais pas ça toute seule. Ouais, et
vous êtes deux.
On est deux avec Morgane et on a écouté plusieurs podcasts, on a lu beaucoup de choses. Et en fait, avec tout ça, on a fait du montage. Donc, parce que moi, je suis danseuse et elle est plus artiste, rappeuse et elle dit du texte et musicienne. Et donc, avec tout ça, on a essayé de créer une forme hybride pour raconter en... Voilà. De manière non linéaire, mais avec tout ce qu'on avait récolté. Et
On va écouter un extrait. Alors ça s'appelle Poussière, je crois.
C'est ça.
On va écouter ça et puis on revient.
J'ai dû louper une marche. Faut voir comment les hommes tombent et se relèvent. Capables ou non. Il n'y a pas assez de place pour tous se tenir debout. Certains tombent et ne se relèvent pas. Alors c'est votre vieille carcasse qui vous sert de manteau. Oripeaux et chair farcie de poussière en guise de manteau, avec la nuit pour seule compagne qui vous regarde larmoyante sans pour autant pouvoir verser une seule goutte. Vous voyez où je veux en venir ? J'ai dû louper une marche et je traîne mes pieds sur des tapis roulants de béton. Sol bétonné, mur bétonné, ciel bétonné, mon petit océan de béton à moi, un paysage à faire fleurir des sourires dans les yeux des gens. Ils sont là eux aussi, tristement absents de leur vie qu'ils habitent pourtant avec ardeur. Oh, ils font bien ce qu'ils peuvent. Rien qu'en les regardant, je comprends qu'il n'y avait pas qu'un seul chemin sur lequel se rouler sans risquer de finir dans quelques éclaboues. Tachés, quoi. Des micro-taches, mouvantes comme des fourmis, qui forment des cercles concentriques. Une farce quotidienne.
J'ai dû louper une marche.
Bienvenue dans la ronde.
Et voilà pour la performance poussière que vous pourrez venir voir donc, dans le cadre de ce festival Trop Cher la Vie. On entend donc un mélange de, ce sera un mélange de rap, enfin de slam, de musique et de danse.
C'est ça. Et donc on fait tout nous-mêmes, donc on fait à la fois le son en
la
direct,
création, la création, entendre, ouais.
C'est ça. Et la lumière, on a fait tout nous-mêmes aussi, et on fait ça dans un couloir. Et ça se passera aussi en même temps qu'une autre performance qui se passera au rez-de-chaussée,
ouais.
Qui sera fait par Sébastien, qui fait plutôt du clown. Et donc on jouera deux fois avant le spectacle de Rémi. C'est le vendredi et samedi à 19h, 19h30. Et nous, on jouera aussi à midi le vendredi, 10 juin. Voilà. Et je pense que Sébastien joue encore le jeudi aussi.
Voilà. Une autre performance. Moi, j'avais demandé aux comédiens et comédiennes de Rémi comment ils avaient préparé leur rôle quelque part, comment ils s'étaient emparés de la thématique. Toi, en tant que danseuse, comment est-ce que tu t'es emparée de ces aspects de la vie un peu dramatiques, lourds à porter, ces choses qu'on traîne, qui nous empêchent, qui nous mettent en apnée quelque part, qui nous empêchent de respirer?
Moi, en fait, avec mes recherches, j'ai trouvé le terme qui s'appelait « contrainte par corps » et qui était une manière de punir en fait les personnes endettées qui se passaient plutôt au Moyen-Âge, je pense. 19e siècle, non, c'est même pas du tout au Moyen-Âge.
C'est, non, 19e siècle, on est plutôt oui. Dans une autre période.
Voilà, c'est ça. Et du coup, je me suis emparée de cette image-là pour parler de la dette et du coup de cette ancienne manière de en fait, c'est la contrainte par corps, c'est de rendre la personne esclave de son créancier. Et donc, c'est-à-dire que pour obtenir des biens, la personne vend son identité. Voilà. Donc, je me suis...
Très bien. Merci, Liana. Léa, du Centre culturel Bruegel, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accueillir.
Ben, avec plaisir.
Voilà, donc là, on est au rez-de-chaussée du Centre culturel Bruegel. C'est d'ici qu'on vous propose cette émission sur Radio Panique. Le festival est en train de... Bah, il s'installe, les choses s'installent, on est quasi prêt. Ça commence officiellement, je dirais, à 14h avec la pièce Apnée.
Oui, tout à fait. Mais le lieu a déjà bien pris vie.
Ouais. Les cadres dont Simon nous parlait, des espaces créés par Trapèze, et puis ces performances qu'on va pouvoir vivre tout au long de cette semaine. Qu'est-ce qui a guidé votre choix vers cette thématique-là, en fait? Pourquoi accueillir finalement Trop Cher la Vie ici?
Alors, je pense que c'est une question de confiance. C'est aussi un peu le lien que Rémi avait avec, avec Christine Rigaud, la directrice du centre. Mmh. Et je sais que Christine lui fait extrêmement confiance dans ses choix de thématiques, parce qu'on avait déjà travaillé avec Rémi il y a quelques années pour son spectacle L'Odeur, qui était sur le sans-abrisme. Mmh. Et voilà, il aborde toujours d'une façon très moderne les termes de thèmes sociétaux et avec beaucoup de respect aussi, je pense, avec ces thématiques-là qui sont difficiles. Donc, ça vient de là.
Peut-être, pour les auditeurs, je ne sais pas si vous avez le programme sous les yeux, mais je ne sais pas si on peut revoir un peu le programme. On terminera peut-être l'émission en faisant quelques rappels de moments. Mm-hmm. Moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous espérez de ce festival? Qu'est-ce qui vous ferait rêver de, qu'est-ce qui pourrait se passer ici pendant toute cette semaine?
Je pense que ce qui est le plus important avec ce festival, c'est de créer la rencontre. Et c'est quand même quelque chose que Rémi a déjà fait en créant ce festival, je pense. Parce que quand on voit toutes les associations qui collaborent au sein de ce festival... La rencontre est déjà faite, mais d'aller chercher encore plus loin, de toucher les gens et d'aussi leur montrer, et ces gens qui sont d'ailleurs touchés par la dette, qu'on les écoute. Je pense que c'est ça aussi. Et d'aborder tous ces sujets qui sont parfois un peu invisibles dans toutes les thématiques qu'on peut retrouver généralement au théâtre ou dans le secteur culturel. Là, c'est ça aussi, c'est de faire vivre aussi ce sujet et de... de montrer que c'est quelque chose qui fait partie du quotidien, qui peut arriver à n'importe qui. Donc c'est ça, je pense, qui devrait ressortir à l'issue de ce festival.
Denise, même question. Qu'est-ce que tu espères de ce festival ? Qu'est-ce que tu souhaiterais qu'il se passe ?
Des rencontres, un peu moins de préjugés vis-à-vis des personnes surendettées. Oui, des rencontres, que ce soit avec des personnes qui sont en difficulté ou des professionnels. Faire connaître notre travail, faire connaître nos spectacles. Il y a un spectacle dont on n'a pas parlé qui est Basta Précarité mercredi matin, donc, qui a été écrit, conçu et imaginé par Trapez. Donc voilà, je voulais en parler parce qu'on n'en a pas encore parlé.
Très bien, mercredi matin.
Et samedi après-midi.
Martine.
Oui.
Qu'est-ce que tu rêves de ce festival ? Qu'est-ce que tu attends d'un festival comme celui-ci ?
D'être entendu par des personnes plus haut.
Plus haut, c'est-à-dire
plus haut.
Tu vas aller jusqu'où ?
Oh là.
Jusqu'où tu vas aller ?
Le plus possible.
Parce que si tu vas aller jusqu'au chez le roi, il est pour l'instant il est parti au Congo.
Oui.
Donc ce sera pas.
On va s'arrêter ministre alors.
Ministre.
De leur faire comprendre que des gens, monsieur, madame, tout le monde comme nous, on a besoin d'aide, d'autres aides. Il y a des aides, mais c'est pas suffisant. Donc ça leur faire comprendre tout ça quoi.
Merci. Petit rappel des événements. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir, Léa ?
Alors, du coup, il y a le spectacle Apnée de Rémy Ponce qui se déroule aujourd'hui à 14h.
Dans quelques minutes.
Voilà. Et les 9, 10 et 11 juin à 20h30. Sinon, tous les jours, alors, il y a des ateliers qui ont chacun une thématique bien particulière. Donc aujourd'hui, on va parler du logement à 17h avec l'Union des locataires maroliennes et Sarah Delatte. Demain, on parlera de la question de la dette et de la santé entre 14 et 16 heures. Et puis jeudi, alors il y aura un atelier un peu plus pluridisciplinaire, c'est-à-dire que toutes les associations dont on a entendu parler durant l'émission vont se retrouver pour parler de comment on peut faire face à à la question de la dette. Et ça, c'est entre 10 et 13 heures. Et puis, le 10 juin, on a un atelier sur comment la thématique de la dette touche la femme, surtout, et l'intimité de la femme. Et ça, c'est avec Céline Panier, et c'est en matinée à 10h. Et voilà, donc il y a une thématique, un focus qui est bien fait sur chacun des jours. Et le samedi, on va retrouver aussi les spectacles Basta Précarité, L'heure de la prescription, les performances d'Eliana, de Sébastien aussi. Donc voilà, il y a encore plein de choses. Il y a une exposition. Voilà, qui sera ouverte durant toute la semaine dans la salle d'expo au rez-de-chaussée. Les stands d'information aussi, qui seront toujours présents. Des projections sur les télés aussi dans le bâtiment. Enfin voilà, il y a plein de choses.
Parfait. Très bien, je pense qu'on a tout dit. Enfin non, on pourrait en parler encore des heures du surendettement, mais on aura l'occasion d'en reparler puisqu'on va faire plusieurs émissions radio. Puisqu'on se retrouve jeudi sur Radio Panique pour l'émission Radio Maritime de 11h à midi. Et puis, ça, ce sera diffusé un peu plus tard. Mais en tout cas, il y aura une émission spéciale, La Voix de la Rue, enregistrée vendredi et qui sera diffusée plus tard sur les ondes de Radio Panique. Donc, le débat pourra continuer ici, en présentiel, avec toutes les associations, mais aussi en radio. Voilà, j'espère que vous serez au rendez-vous. Merci à Rémi, merci à Esquif, puisque Rémi, il est poussé. Il est membre de Esquif et il est poussé par tout le groupe aussi. C'est ça ? Merci Rémi pour l'invitation. Merci au Centre culturel Bruegel pour la mise en place technique de cette émission avec le soutien du Xara ASBL et merci à Radio Panique de nous avoir diffusé. Bon festival à tous. On se retrouve bientôt. Ciao. Au revoir. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Less push, more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party, face mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired.